Troisième partie, où mènent les mauvais chemins. Le lendemain, à 6 heures, deux voitures menées en poste et appelées par le peuple dans sa langue énergique des paniers à salade sortirent de la force pour se diriger sur la conciergerie au palais de justice. Il est peu de flâneurs qui n'aient rencontré cette geôle roulante. Mais quoique la plupart des livres soient écrits uniquement pour les Parisiens, les étrangers seront sans doute satisfaits de trouver ici la description de ce formidable appareil de notre justice criminelle. Qui sait ? Les polices russes, allemandes ou autrichiennes, les magistratures des pays privés de paniers à salade en profiteront peut-être. Et, dans plusieurs contrées étrangères, l'imitation de ce mode de transport sera certainement un bienfait pour les prisonniers. Cette ignoble voiture à caisse jaune, montée sur deux roues et doublée en tôle, est divisée en deux compartiments. Par devant, il se trouve une banquette garnie de cuir sur laquelle se relève un tablier. C'est la partie libre du panier à salade. Elle est destinée à un huissier et à un gendarme. Une forte grille en fer treillissé sépare, dans toute la hauteur et la largeur de la voiture, cette espèce de cabriolet du second compartiment où sont deux bancs de bois placés, comme dans les omnibus, de chaque côté de la caisse et sur lesquels s'asseyent les prisonniers. Ils y sont introduits au moyen d'un marchepied et par une portière sans jour qui s'ouvre au fond de la voiture. Ce surnom de panier à salade vient de ce que, primitivement, la voiture étant à claire-voie de tous côtés, les prisonniers devaient y être secoués absolument comme des salades. Pour plus de sécurité, dans la prévision d'un accident, cette voiture est suivie d'un gendarme à cheval, surtout quand elle emmène des condamnés à mort pour subir leur supplice. Ainsi, l'évasion est impossible. La voiture, doublée de tôle, ne se laisse mordre par aucun outil. Les prisonniers, scrupuleusement fouillés au moment de leur arrestation ou de leur écrou, peuvent tout au plus posséder des ressorts de montre propres aux aciers des barreaux, mais impuissants sur des surfaces planes. Aussi le panier à salade, perfectionné par le génie de la police de Paris, a-t-il fini par servir de modèle pour la voiture cellulaire qui sert maintenant à transporter les forçats au bagne et par laquelle on a remplacé l'effroyable charrette, la honte des civilisations précédentes, quoique Manon Lescaut l'ait illustré. Le panier à salade sert à plusieurs usages. On expédie d'abord ainsi les prévenus des différentes prisons de la capitale au palais pour y être interrogés par le magistrat instructeur. En argot de prison, cela s'appelle « aller à l'instruction ». On amène ensuite les accusés de ces mêmes prisons au palais pour y être jugés, quand il ne s'agit que de la justice correctionnelle. Puis, quand il est question en termes de palais du grand criminel, on les transvase des maisons d'arrêt à la conciergerie, qui est la maison de justice du département de la Seine. Enfin, les condamnés à mort sont menés dans un panier à salade de Bicêtre à la barrière Saint-Jacques, place destinée aux exécutions capitales depuis la Révolution de juillet. Grâce à la philanthropie, ces malheureux ne subissent plus le supplice de l'ancien trajet qui se faisait auparavant de la conciergerie à la place de Grève, dans une charrette absolument semblable à celle dont se servent les marchands de bois. Cette charrette n'est plus affectée aujourd'hui qu'au transport de l'échafaud. Sans cette explication, le mot d'un illustre condamné à son complice, c'est maintenant l'affaire des chevaux, en montant dans le panier à salade, ne se comprendrait pas. il est impossible d'aller au dernier supplice plus commodément qu'on y va maintenant à Paris. En ce moment, les deux paniers à salade, sortis de si grand matin, servaient exceptionnellement à transférer deux prévenus de la maison d'arrêt de la Force à la conciergerie, et chacun de ces prévenus occupait à lui seul un panier à salade. Les 9/10 des lecteurs et les 9/10 du dernier dixième ignorent certainement les différences considérables qui séparent ces mots. Inculpé, prévenu, accusé, détenu, maison d'arrêt, maison de justice ou maison de détention. Aussi, tous seront-ils vraisemblablement étonnés d'apprendre ici qu'il s'agit de tout notre droit criminel, dont l'explication succincte et claire leur sera donnée tout à l'heure, autant pour leur instruction que pour la clarté du dénouement de cette histoire. D'ailleurs, quand on saura que le premier panier à salade contenait Jacques Collin et le second, Lucien, qui venait en quelques heures de passer du fait des grandeurs sociales au fond d'un cachot, la curiosité sera suffisamment excitée déjà. L'attitude des deux complices était caractéristique. Lucien de Rubempré se cachait pour éviter les regards que les passants jetaient sur le grillage de la sinistre et fatale voiture dans le trajet qu'elle faisait par la rue Saint-Antoine pour gagner les quais par la rue du Martroi et par l'arcade Saint-Jean sous laquelle on passait alors pour traverser la place de l'Hôtel de Ville. Aujourd'hui, cette arcade forme la porte d'entrée de l'hôtel du préfet de la Seine dans le vaste palais municipal. L'audacieux forçat collait sa face sur la grille de sa voiture entre l'huissier et le gendarme, qui, sûrs de leur panier à salade, causaient ensemble. Les journées de juillet 1830 et leur formidable tempête ont tellement couvert de leur bruit les événements antérieurs, l'intérêt politique absorba tellement la France pendant les 6 derniers mois de cette année, que personne aujourd'hui ne se souvient plus, ou se souvient à peine, quelque étrange qu'elles aient été, de ces catastrophes privées, judiciaires, financières, qui forment la consommation annuelle de la curiosité parisienne, et qui ne manquèrent pas dans les 6 premiers mois de cette année. Il est donc nécessaire de faire observer combien Paris était alors momentanément agité par la nouvelle de l'arrestation d'un prêtre espagnol trouvé chez une courtisane, et par celle de l'élégant Lucien de Rubempré, le futur de Mademoiselle de Grandlieu, pris sur la grande route d'Italie au petit village de Grès, inculpés tous les deux d'un assassinat dont le fruit allait à 7 millions. Car le scandale de ce procès surmonta cependant quelques jours l'intérêt prodigieux des dernières élections faites sous Charles X. D'abord, ce procès criminel intéressait en partie un des plus riches banquiers, le baron de Nucingen. Puis Lucien, à la veille de devenir le secrétaire intime du Premier ministre, appartenait à la société parisienne la plus élevée. Dans tous les salons de Paris, plus d'un jeune homme se souvint d'avoir envié Lucien quand il avait été distingué par la belle duchesse de Maufrigneuse, et toutes les femmes savaient qu'il intéressait alors Madame de Sérisy, femme d'un des premiers personnages de l'État. Enfin, la beauté de la victime jouissait d'une célébrité singulière dans les différents mondes qui composent Paris. Dans le grand monde, dans le monde financier, dans le monde des courtisanes, dans le monde des jeunes gens, dans le monde littéraire. Depuis 2 jours, tout Paris parlait donc de ces 2 arrestations. Le juge d'instruction, à qui l'affaire était dévolue, M. Camusot, y vit un titre à son avancement. Et pour procéder avec toute la vivacité possible, il avait ordonné de transférer les 2 inculpés de la Force à la conciergerie dès que Lucien de Rubempré serait arrivé de Fontainebleau. L'abbé Carlos et Lucien, n'ayant passé, le premier que 12 heures et le second qu'une demi-nuit à la Force, il est inutile de dépeindre cette prison qu'on a depuis entièrement modifiée, et quant aux particularités de l'écrou, ce serait une répétition de ce qui devait se passer à la conciergerie. Mais avant d'entrer dans le drame terrible d'une instruction criminelle, il est indispensable, comme il vient d'être dit, d'expliquer la marche normale d'un procès de ce genre. D'abord, ces diverses phases seront mieux comprises et en France et à l'étranger. Puis ceux qui l'ignorent apprécieront l'économie du droit criminel telle que l'ont conçu les législateurs sous Napoléon. C'est d'autant plus important que cette grande et belle œuvre est, en ce moment, menacée de destruction par le système dit pénitentiaire. Un crime se commet. S'il y a flagrance, les inculpés sont emmenés au corps de garde voisin et mis dans ce cabanon nommé par le peuple « violon », sans doute parce qu'on y fait de la musique, on y crie ou l'on y pleure. De là, les inculpés sont traduits par devant le commissaire de police qui procède à un commencement d'instruction et qui peut les relaxer s'il y a erreur. Enfin, les inculpés sont transportés au dépôt de la préfecture où la police les tient à la disposition du procureur du roi et du juge d'instruction qui, selon la gravité des cas, avertis plus ou moins promptement, arrivent et interrogent les gens en état d'arrestation provisoire. Selon la nature des présomptions, le juge d'instruction lance un mandat de dépôt et fait écrouer les inculpés à la maison d'arrêt. Paris a 3 maisons d'arrêt, Sainte-Pélagie, La Force et les Madelonnettes. Remarquez cette expression d'inculpé. Notre code a créé 3 distinctions essentielles dans la criminalité. L'inculpation, la prévention, l'accusation. Tant que le mandat d'arrêt n'est pas signé, les auteurs présumés d'un crime ou d'un délit grave sont des inculpés. Sous le poids du mandat d'arrêt, ils deviennent des prévenus. Ils restent purement et simplement prévenus tant que l'instruction se poursuit. L'instruction terminée, une fois que le tribunal a jugé que les prévenus devaient être déférés à la cour, ils passent à l'état d'accusé lorsque la cour royale a jugé, sur la requête du procureur général, qu'il y a des charges suffisantes pour les traduire en cour d'assises. Ainsi, les gens soupçonnés d'un crime passent par 3 états différents, par 3 cribles, avant de comparaître devant ce qu'on appelle la justice du pays. Dans le premier état, les innocents possèdent une foule de moyens de justification, le public, la garde, la police. Dans le second état, ils sont devant un magistrat, confrontés aux témoins, jugés par une chambre de tribunal à Paris ou par tout un tribunal dans les départements. Dans le troisième, ils comparaissent devant 12 conseillers, et l'arrêt de renvoi par devant la cour d'assises peut, en cas d'erreur ou pour défaut de forme, être déféré par les accusés à la cour de cassation. Le jury ne sait pas tout ce qu'il soufflette d'autorités populaires, administratives et judiciaires quand il acquitte des accusés. Aussi, selon nous, à Paris, nous ne parlons pas des autres ressorts. Nous paraît-il bien difficile qu'un innocent s'asseye jamais sur les bancs de la cour d'assises. Le détenu, c'est le condamné. Notre droit criminel a créé des maisons d'arrêt, des maisons de justice et des maisons de détention. Différences juridiques qui correspondent à celles de prévenus, d'accusés, de condamnés. La prison comporte une peine légère, c'est la punition d'un délit minime. Mais la détention est une peine afflictive et, dans certains cas, infamante. Ceux qui proposent aujourd'hui le système pénitentiaire bouleversent donc un admirable droit criminel où les peines étaient supérieurement graduées et ils arriveront à punir les peccadilles presque aussi sévèrement que les plus grands crimes. On pourra d'ailleurs comparer, dans les scènes de la vie politique, voire une ténébreuse affaire, les différences curieuses qui existèrent entre le droit criminel du code de Brumaire en IV et celui du code Napoléon qui l'a remplacé. Dans la plupart des grands procès, comme dans celui-ci, les inculpés deviennent aussitôt des prévenus. La justice lance immédiatement le mandat de dépôt ou d'arrestation. En effet, dans le plus grand nombre des cas, les inculpés ou sont en fuite ou doivent être surpris instantanément. Aussi, comme on l'a vu, la police, qui n'est là que le moyen d'exécution, et la justice, était-elle venue avec la rapidité de la foudre au domicile d'Esther? Quand même il n'y aurait pas eu des motifs de vengeance soufflés par Corentin à l'oreille de la police judiciaire, il y avait dénonciation d'un vol de 750 000 francs par le baron de Nucingen. Au moment où la première voiture, qui contenait Jacques Collin, atteignit à l'arcade Saint-Jean, passage étroit et sombre, un embarras força le postillon d'arrêter sous l'arcade. Les yeux du prévenu brillaient à travers la grille comme deux escarboucles, malgré le masque de moribond qui la veille avait fait croire au directeur de la force à la nécessité d'appeler le médecin. Libres en ce moment, car ni le gendarme ni l'huissier ne se retournaient pour voir leur pratique, ses yeux flamboyants parlaient un langage si clair qu'un juge d'instruction habile, comme M. Popineau par exemple, aurait reconnu le forçat dans le sacrilège. En effet, Jacques Collin, depuis que le panier à salade avait franchi la porte de la force, examinait tout sur son passage. Malgré la rapidité de la course, il embrassait d'un regard avide et complet les maisons depuis leur dernier étage jusqu'au rez-de-chaussée. Il voyait tous les passants et il les analysait. Dieu ne saisit pas mieux sa création dans ses moyens et dans sa fin que cet homme ne saisissait les moindres différences dans la masse des choses et des passants. Armé d'une espérance, comme le dernier des Horaces le fut de son glaive, il attendait du secours. À tout autre qu'à ce Machiavel du bagne, cet espoir eût paru tellement impossible à réaliser qu'il se serait laissé machinalement aller, ce que font tous les coupables. Aucun d'eux ne songe à résister dans la situation où la justice et la police de Paris plongent les prévenus, surtout ceux mis au secret, comme l'étaient Lucien et Jacques Collin. On ne se figure pas l'isolement soudain où se trouve un prévenu. Les gendarmes qui l'arrêtent, le commissaire qui l'interroge, ceux qui le mènent en prison, les gardiens qui le conduisent dans ce qu'on appelle littéralement un cachot, ceux qui le prennent sous les bras pour le faire monter dans un panier à salade. Tous les êtres qui, dès son arrestation, l'entourent, sont muets ou tiennent registre de ses paroles pour les répéter soit à la police, soit au juge. Cette absolue séparation, si simplement obtenue entre le monde entier et le prévenu, cause un renversement complet dans ses facultés, une prodigieuse prostration de l'esprit, surtout quand ce n'est pas un homme familiarisé par ses antécédents avec l'action de la justice. Le duel entre le coupable et le juge est donc d'autant plus terrible que la justice a pour auxiliaire le silence des murailles et l'incorruptible indifférence de ses agents.